Jean-Luc Mélenchon n'est pas le leader du Front populaire et il ne sera pas Premier ministre. Cette affirmation, c'est celle de la patronne des écologistes. Ce soir, à l'agence France Presse, Marine Tondelier affirme que si la gauche l'emporte aux législatives, il faudra choisir un chef de gouvernement par consensus entre les quatre partis et il est impossible que ce soit le leader insoumis. Laurent Berger, le leader de la CFDT, partage en gros le même avis. Il était ce matin chez nos confrères de France 2 et on l'écoute.
Mais ça peut pas être Jean-Luc Mélenchon. Faut arrêter ces histoires-là. Il est rejeté
partout. C'est parce qu'il a dit ce week-end.
Mais il peut dire tout ce qu'il veut. Il essaie de tout dynamiter. Vous savez, il y aura des artisans du chaos partout. Ce qu'il faut, c'est de l'apaisement, de la réconciliation et la capacité à se parler et à passer des compromis.
Et nous sommes rejoints pour ce dernier débat d'actualité par Catherine Tricot, qui est directrice de la revue Regard, Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles, et Aurore Laluc, députée européenne, Place Publique, dont elle est co-présidente. Sylvain Bourmeau est donc resté avec nous. Mélenchon a intérêt à la mettre en veilleuse ou pas? J'ai pas compris.
Écoutez, on se demande lui aussi à quel jeu il joue. En fait, on comprend à quel jeu il joue. Il joue la politique du pire. En fait, il a compris, il a réalisé que le nouveau Front populaire était une manière pour la gauche de lever l'hypothèque qu'il faisait peser sur ce camp et qui empêchait toute espérance, toute possibilité de victoire pour la gauche depuis 2017. Cette machine qui est le nouveau Front populaire, en fait, avait commencé d'être construite avant même l'annonce de la dissolution. Simplement, elle était construite de façon à empêcher une candidature de Jean-Luc Mélenchon à la prochaine présidentielle. Cette machine a dû être construite plus rapidement que prévu du fait de cette dissolution. Elle l'a été de façon admirable et remarquable en quelques jours seulement. D'ailleurs, je pense que le délai a profité en fait à la gauche. Il aurait été probablement plus compliqué de se mettre d'accord avec une plus longue période. Mais l'objectif était bien de marginaliser, de neutraliser Jean-Luc Mélenchon. Et c'est une évidence ce que dit Laurent Berger, ce que dit Marine Tondelier, ce que disent beaucoup d'autres responsables à gauche aujourd'hui. Il ne peut pas être le Premier ministre d'un Front populaire qui aurait gagné les élections législatives. Ça me semble tellement évident. Voilà. Simplement, il est dans ses derniers soubresauts. Il a compris qu'il avait perdu la partie. S'il ne l'avait pas perdu, vous croyez qu'il ne l'aurait pas mis face à Clémentine Autain, face à François Ruffin, des candidats, comme il l'a fait dans d'autres circonscriptions? Il a bien mesuré le rapport de force. Vous croyez qu'il aurait renoncé à présenter Adrien Quatennens? S'il l'a retiré, c'est aussi parce qu'il a bien pris la mesure du rapport de force.
Alors, Aurore Laluc, est-ce que c'est tranché? Ce ne sera pas Mélenchon à Matignon, même si la France insoumise est majoritaire au sein de votre alliance à l'Assemblée?
Ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon et ça ne doit pas être Jean-Luc Mélenchon. Déjà, on va revenir à la base. Le Front populaire, il s'est pas fait autour d'une incarnation. Il s'est fait autour d'une ligne politique qui est de dire on ne veut pas du Rassemblement national au pouvoir. C'est ça la base du Front populaire. Oui. Et c'est pour ça que nous nous sommes unis très rapidement. Ensuite, maintenant, arrive la question de l'incarnation qui vient polluer et même, je vais vous dire, diviser cette alliance qui, pour l'instant, tient. On tient tous ensemble alors qu'on a des différences, on a des nuances. Et on l'a dit avec Raphaël Glucksmann, hein, très clairement, nous, cette alliance, elle n'était pas naturelle et on ne l'aurait pas fait comme ça s'il n'y avait pas eu ce contexte spécifique. Donc aujourd'hui, comment dire, Mélenchon, que ça le fasse souffrir, pas souffrir, qu'il trouve ça juste, pas juste, la réalité, c'est qu'en fait, il dit qu'il est prêt, mais en fait, la France et les Français ne sont pas prêts à l'avoir comme Premier ministre, et les sympathisants de gauche ne sont pas prêts à l'avoir en Premier ministre, et il faut qu'il l'accepte. Je veux dire, Mélenchon ne doit pas être le nouveau Macron. Il ne doit pas être en mode « je n'entends pas ce que disent les Français, je n'entends pas ce que disent les gens de gauche ». Il faut qu'il l'entende, il faut qu'il mette sa petite personne dans sa poche et qui pense à l'intérêt général et à ce pays.
Cette fois-ci, c'est fait, selon vous, Catherine Tricot? Il ne peut plus représenter l'ensemble de la gauche française, si tant est qu'il l'ait fait à un moment ou à un autre?
Je pense qu'il l'a fait. Oui. En 2022, il l'a fait. On va dire que quand il a fait 22% à l'élection présidentielle, il a largement représenté.
Absolument.
Le problème, c'est que depuis 2022, de l'eau a coulé sous les ponts et que la gestion de Jean-Luc Mélenchon de sa victoire a été désastreuse. En fait, il s'est comporté d'une manière hégémonique, à la fois en interne, c'est-à-dire qu'il a refusé toute discussion et il a éliminé progressivement tous ceux qui lui tenaient tête, et vis-à-vis de ses partenaires, même vis-à-vis des syndicats, puisqu'on se souvient encore que lors de la lutte contre la réforme des retraites, il s'est opposé aux stratégies syndicales. Voilà, donc il s'est opposé un peu à toute la gauche. Donc le rapport de force ne lui permet plus aujourd'hui de prétendre la représenter et l'incarner. Ce qui ne veut pas dire que Jean-Luc Mélenchon doit disparaître. Mais il faut qu'il acte qu'il n'est pas le représentant de toute la gauche. Et pourquoi je dis que ça ne veut pas dire qu'il doit disparaître ? Parce que néanmoins, il représente pour une partie de la population, et notamment les jeunes, la jeunesse. Si vous regardez les gens qui ont moins de 35 ans, ils ont voté pour un tiers pour Jordan Bardella, oui. Un tiers pour Jean-Luc Mélenchon.
Absolument.
Et le reste, c'est quasiment rien. C'est-à-dire, c'est vraiment des tout petits scores. Donc, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon, probablement, par son attitude un peu je lâche rien, je tiens debout, etc., finalement, pour la jeunesse, ça veut dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que la jeunesse valide les excès, l'autoritarisme de Jean-Luc Mélenchon, oui. Son soutien à Adrien Quatennens, même tout à fait au contraire. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il arrive à comprendre le moment. Et je pense que c'est ça qu'il ne comprend pas. Son moment, c'est d'être présent dans le Front populaire, mais pas qu'il cherche à recommencer son hégémonie. Le Front populaire n'est pas égal à la NUPES.
Alors, vous tenez tous des propos que je qualifierais de raisonnables, Victor Hérault. On sait comment ça se termine en revanche à la France insoumise quand on critique le patron jusqu'ici.
C'est ça le grand problème. Si vous voulez, je crois qu'on a réalisé à gauche qu'il y avait un triple problème chez Jean-Luc Mélenchon. D'abord, là, c'est pas vraiment sa faute, c'est plutôt son parti. C'est plutôt la France insoumise et le rapport. Et vous disiez effectivement, l'eau a coulé sous les ponts depuis 2022. Il s'en est passé des choses depuis 2022. Le rapport de force s'est inversé, mais aussi qu'il y a eu le 7 octobre. Oui. Et en réalité, la question du 7 octobre, la question de l'antisémitisme, la question de la qualification du Hamas a été source d'énormément de divisions dès le départ, avant même la constitution du Front populaire. C'était la question de la plus grande discorde. Est-ce qu'on qualifie ou non le Hamas de mouvements terroristes ? Donc, il y a la question de l'antisémitisme. Il y a ensuite, et là c'est plus personnel, plus relatif à la personne de Jean-Luc Mélenchon, le lapsus est révélateur, oui. Il y a la façon de gouverner. Quand Jean-Luc Mélenchon profite des législatives pour faire des purges dans son parti, pour écarter Raquel Garrido, Alexis Corbière et j'en passe, qu'est-ce que ça renvoie comme image de gouvernant ? Est-ce que ça renvoie l'image d'un, de, comme le dit Jordan Bardella et d'autres l'ont dit avant lui, de Premier ministre et de tous les Français ?
Il nous l'a dit un jour où il a pété les plombs, la République c'est moi. Mais, et en fait, il le pense.
Et on connaît tout l'historique de Jean-Luc Mélenchon, tout tend vers... D'ailleurs, c'est critiqué dans les rangs de la gauche. On parle de dictateur, voilà, on parle de putsch, on parle de purge. Donc tout ça, c'était vraiment pas conforme à l'essence même du mouvement, et je suis d'accord qui était l'unité face au Rassemblement National. En gros, nous nous unissons face au fascisme. C'était pas conforme à l'image que portait le mouvement, qui était mettons nos différents côtés, unissons-nous en tous les cas à cet instant-là pour vaincre l'extrême droite. Et puis, troisièmement, et là c'est une question de fond, Jean-Luc Mélenchon est, on pourrait dire très grossièrement, le revers de la médaille de l'extrême droite. Et quand je dis extrême droite, pour le coup, c'est la vraie. C'est-à-dire qu'il fait exactement le même constat et qu'il oblige à se positionner pour ou contre, par exemple, je vais prendre un terme qui est un gros mot aujourd'hui, mais que Jean-Luc Mélenchon a l'air d'assumer, ce qu'il appelle créolisation ou grand remplacement à droite, c'est exactement le même concept. Hier, Jean-Luc Mélenchon tenait un discours en expliquant que la nouvelle France était née, qu'un Français sur quatre avait des grands-parents étrangers et qu'en 1950, c'était 1 sur 10 et que ce pays est à nous. Ce sont des propos très clivants qui obligent à se positionner sur oui ou non, est-ce que cette vision de la France est la bonne ou la mauvaise ? Et en réalité, c'est le pendant négatif ou le pendant positif, selon où on se positionne, de l'extrême droite. Alors, mais c'est exactement le même constat.
Il y a une question très précise. Gabriel Attal et Jordan Bardella veulent tous les deux débattre avec Jean-Luc Mélenchon demain plutôt que Manuel Bompard. Pourquoi Manuel Bompard représenterait-il mieux le Front populaire que Mélenchon ?
Il y a eu des discussions au sein du Front populaire qui ont mené à cette décision. Et ce n'est pas à Bardella, ce n'est pas à Gabriel Attal de décider avec qui ils doivent débattre.
Et ça revient à dire Mélenchon est clivant mais pas Bompard ? Enfin, je le dis avec mes mots, mais...
Oui.
Oui.
Oui, moi je pense qu'évidemment qu'il préfère débattre avec Jean-Luc Mélenchon, parce que d'abord, évidemment, ça peut accroître l'audience de ce débat, ça c'est le premier point, mais le deuxième point, c'est qu'on sait que Jean-Luc Mélenchon ne représente pas le Front populaire. En le mettant dans ce premier débat, il donne à voir, ou ils espèrent donner à voir Jean-Luc Mélenchon comme le leader du Front populaire. Or, tout ce qu'on vient de dire jusque-là, qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et donc, évidemment, il y a les discours rationnels, les analyses posées où on regarde le rapport de force, et puis il y a la symbolique. Bien et c'est sûr que si c'est lui qui va au débat, il apparaîtra comme le leader du Front populaire. Or, ça, ce n'est pas voulu ni par les électeurs du Front populaire, ni par les forces qui sont rassemblées dans le Front populaire.
Sylvain Bourmont.
Mais c'est qui Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ? Il est quoi ? Il n'est rien dans la France insoumise. Il est son fondateur. Il n'est pas son...
Mais c'est pas rien, excusez-moi.
Non, il est son fondateur. Non, mais c'est historique, si vous voulez. C'est historique. Oui. Il n'occupe pas de fonction de direction, de présidence de cette organisation qui n'en est pas une.
Volontairement,
il y a un
d'ailleurs.
Délégué général. Volontairement. Oui. Parce qu'il sait très bien que quand on ne dirige pas, c'est plus compliqué de faire un printemps arabe.
Oui, il connaît très bien les appareils.
Donc, si vous voulez, le
politique.
Voilà. La question, c'est mais pourquoi les médias, par exemple, continuent de l'inviter lui plutôt que les responsables de son parti ou les responsables du nouveau Front populaire. Pourquoi ? Parce qu'il a une légitimité présidentielle. Okay ? Or, Jean-Luc Mélenchon est celui, nous dit-il depuis des années, qui souhaite une 6e République, qui ne soit plus présidentielle. On a pour la première fois dans l'histoire de la 5e République les élections les plus parlementaires qu'on connaisse. Pourquoi vient-il imposer la logique de la 5e République alors que pour une fois, on peut commencer d'inventer la 6e ? Il est totalement incohérent, Jean-Luc Mélenchon. Donc il faudrait qu'il retourne à ses études, à ses livres, qu'il réfléchisse à la 6e République plutôt que de continuer à vouloir incarner la 5e.
Par ailleurs, il ne manque pas d'occasion de dire que toutes les jeunes pousses qu'il a autour de lui sont pleines de talent.
Oui,
parfois
mais il le pense.
Sont...
Hein.
Oui,
et il a raison.
Il pense même qu'ils sont meilleurs que Léon Blum. D'ailleurs, ça les conduit à se ridiculiser et les autres à devoir assumer qu'ils sont meilleurs que Léon Blum, ce qui est quand même pathétique. Mais s'il y a des gens qui sont pleins de talent, mais qu'ils s'en aillent. Il nous avait dit en 2022 qu'ils s'en allaient, qu'ils se mettaient en retrait, qu'ils disaient aux autres « faites mieux ». Mais qu'ils laissent les autres faire mieux. Enfin, je veux dire, il faut prendre acte aussi du temps qui passe. Jean-Luc Mélenchon, il a fait quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il a dit « la gauche en France ne peut pas être social-libérale, ne s'identifie pas au bilan de François Hollande ». Ça, il l'a posé. Maintenant, une autre gauche doit... Enfin, cette gauche-là, et avec dans des tas de ramifications nouvelles, doit émerger, qu'il laisse la place aux autres, à une nouvelle génération, qu'il a d'ailleurs permis de faire émerger. Donc, qu'il laisse la place aux autres. Il est le papy de la gauche, pour une part, c'est parfait.
Le vieux, comme on l'appelle.
Mais oui, il l'appelle le vieux, comme lui appelle d'autres le vieux. Bref, la transmission des mots. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres personnes pour le faire. Il n'y a aucune nécessité à Jean-Luc Mélenchon, aucune, en dehors éventuellement d'effrayer ceux qui pensent que Jean-Luc Mélenchon est antisémite, ce que je ne crois pas.
Je rappellerai juste que le barycentre de la gauche, suite aux élections européennes, a changé. Je veux dire, le premier mouvement qui est arrivé en tête à gauche, c'est Place Publique et le Parti Socialiste, représenté par Raphaël Glucksmann. Oui. Donc, on n'est plus non plus dans la gauche d'il y a quelques années. Et ça aussi, il doit l'accepter. La ligne qui a été tranchée au soir des élections européennes, c'était que finalement, il y avait une volonté d'avoir une gauche très claire et très ferme sur les questions sociales, sur les questions économiques, sur les questions écologiques, sur les questions démocratiques, géopolitiques et sans outrance.
Pourquoi Raphaël Glucksmann a disparu depuis depuis le soir des élections ?
Alors, Raphaël Glucksmann, il était samedi en Gironde pour soutenir des candidats. Il était dimanche avec Jérôme Guedj pour pouvoir le soutenir.
Pourquoi ce n'est pas lui qui débat demain avec Attal et Bardella ?
Il était aujourd'hui, en Occitanie avec Valérie Rabault et Carole Delga. Moi, je trouve qu'il aurait été bien meilleur, effectivement.
Vous le regrettez.
Pour débat.
Il y a quatre débats. Oui. Il y a quatre principaux partis qui forment, désolé pour Place Publique, qui forment le nouveau Front Populaire. Donc, les Verts, la France Insoumise, le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Oui. Ils se sont répartis. Chaque chef de parti va à l'un de ces quatre débats. C'est assez simple, en fait, comme principe. Et c'est respectueux du caractère collectif du mouvement, à mon sens.
Oui, voilà. et puis, en effet, vous avez raison de dire que l'élection européenne, il y a eu un rééquilibrage de la gauche qui s'est fait. Donc, il y a une gauche social-démocrate, je dirais, qui a émergé. Sa reconstruction n'est certainement pas terminée. Non. Mais donc, c'est la vérité, c'est que la gauche, elle est plurielle. Mais c'est-à-dire, historiquement, la gauche est plurielle.
Oui, mais là, alors, vous avez tout à fait raison, mais en même temps, il y a un moment où il y a un homme ou une femme qui doit l'incarner.
C'est vrai.
Et en fait, on n'a pas de leader. Nous n'aurons pas de leader jusqu'au 7 juillet, jusqu'au second tour.
Il y a quand même quelques personnalités qui rassemblent quand même dans cette gauche. Enfin, je veux dire, Raphaël Glucksmann en fait partie.
D'où ma question.
Raphaël Glucksmann en fait partie. Il y a François Ruffin, il y a Clémentine Autain, il y a des noms.
Maurice Vallaud.
Il y a des noms qui apparaissent. Il n'y a pas une personne.
Il y a plein de noms, il n'y en a pas un qui ressort. Il y a plein de noms, mais il n'y en a pas un qui ressort.
Raphaël Glucksmann a été... Mais j'ai l'impression qu'on fait mine de ne pas voir l'évidence. Raphaël Glucksmann a été totalement effacé dès le lendemain de sa victoire, parce qu'en réalité, à gauche, encore une fois, il le répète à lui-même, d'ailleurs.
Faites attention, vous allez nous dire qu'on se croirait en Union soviétique.
Bon, j'irai pas jusque-là. Non, non,
et je ne le pense pas.
Contrairement à d'autres bords politiques, je vais pas dans l'outrance et dans l'exagération, j'ai pas besoin. Mais Raphaël Glucksmann, c'est saisissant. Enfin, on a presque, honnêtement, en tant qu'observateur politique, on a presque de la peine pour lui. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il disparaît d'un coup alors que c'est lui qui a porté la gauche jusque si haut? Alors on croyait le Parti socialiste mort juste avant l'élection. Là, on découvre qu'en fait, Raphaël Glucksmann arrive à ressusciter cette ligne-là. Mais le fond, qu'est-ce que c'est que le fond? Le fond, c'est que les militants et beaucoup de partis considèrent que Raphaël Glucksmann n'est pas assez à gauche et qu'en fait, il y a une prime à la radicalité à gauche. Non. Il y a une prime à la radicalité à gauche. Beaucoup de militants nous disent d'ailleurs Raphaël Glucksmann est de droite, en fait.
Non, ce qui est assez sidérant parce que ce n'est pas vrai. Les sondages ne montrent pas ça du tout. Les sondages montrent au contraire.
Sondages plébiscitent Raphaël Glucksmann. Mais il y a les électeurs de droite aussi dedans.
Par les sympathisants de gauche.
C'est une bonne question.
Il est plébiscité. Raphaël Glucksmann n'a pas disparu. Moi, je vais vous dire, place publique que je représentais, n'avait pas été dans les négociations programmatiques, le programme ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui niveau de l'union de la gauche. Donc on n'a pas disparu, on est là. Ensuite, il y aura une social-démocratie, et il y a une social-démocratie à reconstruire dans ce pays, et je vous assure qu'on est là, et que Raphaël Glucksmann sera là pour pouvoir le reconstruire. Il a dit qu'il serait toujours garant du cap qui a été celui qui a été plébiscité par les électeurs de gauche le soir des élections européennes. Il sera garant du cap et il ne disparaîtra pas, il sera toujours là.
Bon. Oui, ce que je voulais juste ajouter, c'est que Emmanuel Macron voulait dynamiter les partis en faisant cette dissolution comme ça rapide en 3 semaines. Et ben en fait, il a remis les partis en selle. En fait, Raphaël Glucksmann est aussi victime du retour des partis dans les négociations.
Merci à tous. Dans le temps...